Voilà, bonjour à tous. Va voir la fourmi. Donc, nous sommes sur une série de messages sur la fourmi. Et c'est tiré du Proverbe 6, versets 6 à 8. Va voir la fourmi, toi paresseux, et observe son comportement et tu en tireras des leçons de sagesse. Et donc, c'est une série de messages sur la fourmi et voir qu'est-ce que la fourmi peut nous enseigner. Donc, la dernière fois, nous avons vu que la fourmi était l'œuvre de son créateur, et donc ici nous sommes sur le deuxième chapitre et on va voir que la fourmi nous révèle le Père créateur. Donc on va se poser deux questions. La première, c'est pourquoi la fourmi a-t-elle été créée? Et deuxièmement, la fourmi a-t-elle de la valeur aux yeux du Père? Et pour répondre à ces questions, on va faire un focus sur, premièrement, sur la fourmi, hein, et ensuite on va voir qu'est-ce que cela nous enseigne. Donc, la première chose que l'on peut voir, c'est qu'il existe beaucoup d'espèces de fourmis à travers le monde. Il y en aurait 15 000 espèces de fourmis, et plus, encore une fois, hein, selon les scientifiques, des espèces non découvertes. Et par exemple, donc ici, hein, on va voir quelques espèces. Ici, on voit une espèce de fourmi, ça s'appelle les fourmis boucliers. Alors, ça fait partie de la famille des céphalotes. Hein, et dans cette famille, il y a ces fameux fourmis boucliers. Et comme on peut le voir, donc elles ont leur tête plate et très dure. Et donc, elles vont s'en servir comme bouclier, et notamment pour défendre les siens. Donc quand il y a des ennemis qui vont arriver, hein, elles vont boucher les trous de la fourmilière et ainsi empêcher toute intrusion. Et ça, c'est très efficace. Ensuite, on a là la deuxième espèce qu'on voit, hein, ça s'appelle la fourmi tisserande. Donc nos fourmis à nous, elles creusent dans la terre, hein, pour créer leur fourmilière. Elles, ici, elles vont se servir des végétaux. Et pour cela, elles vont faire des chaînes de fourmis. Et elles vont, comme on peut le voir, elles vont s'étirer, ou quand les feuilles elles sont beaucoup trop loin, elles vont faire des chaînes de fourmis pour aller les attraper et les ramener à elles. Et elles vont joindre toutes les feuilles. Et elles vont, tisser ces feuilles grâce aux larves. Hein. Elles vont taper sur la tête de ces larves. Les larves vont sécréter de la soie, et la soie, c'est un ingrédient naturel qui est assez souple et malléable et assez solide. Donc avec cette soie, ils vont tisser, coudre les jointures des feuilles, et ainsi vont former donc ces fameuses boules, et ça va devenir leur fourmilière. Et on a aussi, hein, enfin, bon, on ne va pas avoir toutes les 15 000 espèces de fourmis, mais dernièrement, les fourmis pot de miel. Et ça, c'est des fourmis qui vivent dans des régions désertiques et arides, et où il y a la nourriture qui manque dans des saisons, parfois plusieurs mois. Et du coup, quand il y a des saisons d'abondance, certaines de fourmis de cette fourmilière, de cette famille, ils vont se gaver d'eau et du sucre, et ils vont former ces fameuses boules, ces fameux réservoirs. Et à l'intérieur, ça va être donc un mélange d'eau et du sucre, et donc ça va devenir comme du miel. Et ils vont se suspendre, hein, comme on peut voir sur la photo, et ça va devenir des réservoirs à nourriture dans les temps de pénurie. Et donc c'est pour ça qu'on les appelle les fourmis pot de miel. Voilà. Et ici, donc là, on va s'intéresser encore une fois à notre fourmi noire du jardin. Et on va voir quelque chose qu'on peut voir assez régulièrement, hein, si on observe les fourmis. Ça s'appelle l'élevage de pucerons. Une des particularités, hein, de nos fourmis de chez nous, c'est l'élevage de pucerons. En fait, les fourmis vont vivre en symbiose avec les pucerons. Donc vivre en symbiose, ça veut dire qu'ils vont cohabiter sans se détruire d'une espèce à une autre, hein, et chacune va apporter quelque chose à l'autre espèce. Et la dernière fois, je disais que ces insectes étaient que les fourmis étaient des insectes faibles, avec beaucoup de faiblesse. Mais alors, si on regarde aux pucerons, c'est encore pire. Les pucerons sont complètement vulnérables. Ils sont incapables de se protéger, et tout ce qu'elles demandent, c'est finalement de manger. Et là où elles se situent, elles sont exposées Donc c'est sur toutes les tiges, hein, les branches, et elles sont complètement exposées à l'air libre, au monde des insectes. Et voilà, donc ce qui les intéresse, c'est de manger. Et donc pour cela, elles vont se fixer sur des tiges et manger la sève. Pourquoi ? Parce que dans la sève, il y a beaucoup de sucre. C'est pour ça que il y a un peu, quand on touche de la sève, c'est collant. Donc c'est parce qu'il y a beaucoup de sucre. Et il y a un tout petit peu de protéines. Et le puceron, lui, a besoin de ces protéines. Mais par contre, il n'a pas envie d'être diabétique. Donc il va rejeter tout le sucre. Il va le rejeter comment ? Dans son caca. Donc dans ses excréments. Et c'est ce que nous appelons ces excréments le miella. Donc on peut le voir, hein, sur la photo, ça sort bien de l'anus. Et ça, la fourmi, c'est ce qui l'intéresse. Et donc, la fourmi va prendre soin de ses pucerons comme si c'était leur petit. Donc quand j'ai lu le document, c'est vraiment été dire comme ça, comme si c'était leur propre petit. La fourmi va protéger les pucerons des prédateurs, donc avec leur fourmi soldat. Par exemple, lorsque la plante, par exemple, n'aura plus de sève, la fourmi va alors déplacer les pucerons sur une autre plante, une autre source de nourriture. Et là, on le voit aussi, une autre chose qu'elle fait, c'est que ces fourmis va caresser avec ses antennes le dos des pucerons. Elle va leur faire des massages. Et ça, le puceron, lui, il aime bien, ça le stimule, il est vraiment bien. Et donc, on peut voir, hein, le puceron, lui, il est protégé. Bah, voilà, il y a une source de nourriture. Il reçoit des massages, des papouilles de la part de la fourmi. Et qu'est-ce qui va donner comme résultat de l'excrément ? Et cet excrément, donc ça s'appelle le miella, hein, et c'est une alimentation savoureuse pour la fourmi. Voilà. Je m'arrête sur le focus et on va revenir là-dessus. C'est plus ça qu'il faut comprendre. Hein. Et donc, pour répondre à la question « Pourquoi la fourmi a-t-elle créé ?» on va voir deux versets. Jean 1, versets 1 à 3, donc la de paroles vivantes. Hein. « Aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, était là. Il était face à face avec Dieu, étant lui-même Dieu. De toute éternité, donc, il était là, face à face avec Dieu. Tout ce qui existe a été créé par lui. Absolument rien n'a pris naissance sans lui. » Un deuxième texte, Romains 1, versets 19 et 20, toujours de paroles vivantes. « En effet, nul n'est dépourvu de la notion du vrai Dieu. Tous les hommes ont une connaissance innée de lui, lui-même l'ayant placé avec netteté dans leur cœur. Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de ses perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité, sa puissance. » Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui sont sous leurs yeux, la terre et le ciel et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence et son pouvoir éternel. Ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas si Dieu existe. Et donc, avec ces deux textes, on peut voir que la fourmi nous révèle le Père. Et si je dis ça, et c'est le titre de mon message, on pourrait dire que c'est un peu hérétique, puisque seul Jésus, la Bible dit que seul Jésus nous révèle le Père. Donc si j'avais donné ce titre il y a plus de 1000 ans, j'aurais côtoyé de très près Jeanne d'Arc. Mais là, le texte de Romain nous dit que... le texte de Jean, pardon, nous dit que tout existe et tout a été créé par Jésus, donc par la parole. Et Jésus ne fait rien sans le Père. Donc le Père et le Fils ont œuvré ensemble dans l'œuvre de la création. Le Père, c'était la volonté de créer les choses, créer chaque élément, et c'est par le Fils, que c'est à travers Jésus que tout a été fait. Et toujours dans cette même, dans cette pensée-là, Dieu, on avait vu la dernière fois que Dieu était un Dieu d'ordre, un architecte, et ses lois divines sont inscrites dans toute sa création. C'est ce que le texte de Romains nous dit, « Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité, sa puissance. » Et donc si on voudrait définir tout simplement qui est Dieu, ça serait quoi ? Dans 1 Jean 4, verset 8, « Dieu est amour. » Et si on voudrait définir une seule loi divine, ça serait laquelle ? Ça serait « Aime le Seigneur, puis aime ton prochain comme toi-même » en Matthieu 20, chapitre 22. Et la fourmi a reçu cette loi divine. Quand Dieu l'a créée, elle a reçu pour ordre d'aller prendre soin du puceron comme soi-même. Et donc là, on va repartir sur cette analyse du puceron. La fourmi a reçu cet ordre. Va prendre soin du puceron comme de tes propres petits, comme de toi, comme si c'était une fourmi. Et parce que le puceron, il est beaucoup plus faible que toi. Donc va le prendre soin. Et c'est ce qu'elle a été faire. Elle a été le choyer, le protéger, l'aider à se nourrir. Et finalement, si on regarde un petit peu, qu'est-ce que la fourmi récolte de la part du puceron? De l'excrément, du caca. Et ça, c'est un peu du mépris de la part du puceron. Mais dans cet élevage de pucerons, on voit là l'œuvre de la grâce de Dieu, même dans sa création. Dieu est en train de nous dire dans cet exemple qu'il est capable de transformer, toujours dans l'œuvre de la grâce, Dieu est capable de transformer cet excrément, donc ce mépris de la part du puceron, en bénédiction, en miella pour la fourmi. Quelque chose de sucré, quoi. Hein. Le miella, donc c'est vraiment le tiré du mot miel. Hein. Et donc c'est quelque chose de savoureux. Pour nous, ça serait comme si c'était du Kinder Bueno. Et c'est la même chose pour toi. Quand Dieu nous demande d'aller aimer notre prochain ou notre ennemi, aimer, c'est quelque chose qui n'est pas facile, puisque dans l'amour, il y a une notion de vulnérabilité. Il va falloir ouvrir son cœur à l'autre. Et cela peut être douloureux, parce que quand l'autre, de la part de l'autre, on récolte du mépris, alors que nous avons ouvert notre cœur à l'autre, ça peut être blessant et douloureux. Mais dans l'analyse de ce puceron, Dieu nous montre une chose, une loi spirituelle. Dieu nous montre que dans la situation, parce que nous avons obéi à sa parole, parce que nous lui avons fait confiance, parce que nous avons été vers notre prochain en l'aimant, lorsque notre prochain nous méprisera, Dieu est capable de transformer ce mépris en source de bénédiction. Dieu transforme le mal en bien. Et imagine toutes les bénédictions que tu peux passer à côté, ou même en tant qu'église, nous passons peut-être à côté de bénédictions parce que nous n'allons pas vers notre prochain, par peur peut-être du mépris là dans cette situation. Pour illustrer cet exemple du puceron, on va voir deux exemples. Le premier, c'est Joseph. Dans l'Ancien Testament, c'est l'exemple parfait. Joseph, il avait son père, Jacob l'avait envoyé vers ses frères et pour aller prendre des nouvelles de eux, donc entre guillemets, aller leur faire du bien. Il faisait rien de mal. Et finalement, qu'est-ce qu'il a récolté? Du mépris. Il a été envoyé dans un puits, puis vendu comme esclave en Égypte. Et bon, des années plus tard, il deviendra numéro 2 d'Égypte et sauvera tout le peuple d'Égypte de la famine et sauvera sa famille. Et c'est lui-même qui dira que Dieu est celui qui transforme le mal en bien. Et un deuxième exemple qui est beaucoup plus parlant, c'est l'exemple de la croix dans le Nouveau Testament, Jésus. Jésus est venu un peu comme cette fourmi dans notre monde, et nous étions tous ces pucerons, beaucoup plus faibles et dépendants. Et Jésus est venu pour guérir les malades, pour leur annoncer la bonne nouvelle, pour les délivrer. Et qu'est-ce que Jésus a récolté? Il a récolté le mépris de notre part, de l'humanité. Mais ce mépris l'a conduit à la croix, et c'est cette croix qui est source de salut pour tous les hommes. Cette croix est la source de bénédiction pour l'humanité. Et c'est à ce moment-là que c'est mes revenus, quand j'ai vu la notion de la croix à travers l'œuvre de la création. J'ai le verset qui est tiré de mon titre, hein, va voir la fourmi, de Proverbe 6, versets 6 à 8. À ce moment-là, ce verset m'est revenu. Va voir la fourmi, observe son comportement et tire-en une leçon de sagesse. Et la dernière fois, je disais que c'était la sagesse qui s'exprimait, que c'était aussi un commandement de la sagesse. Si tu veux en tirer de leçons, on va voir la fourmi. Et ça, c'est vrai. Mais il y a aussi l'expression du Père dans ce verset. Le Père, quand il s'exprime, c'est comme s'il disait « Va voir la fourmi que j'ai créée pour toi. observe-la, et tu y verras alors ma beauté, tu pourras alors contempler ma gloire. La fourmi a été créée dans un but, pour nous montrer la beauté du Père. Et ici, on parle que d'une fourmi. Alors, à combien plus forte raison, c'est vrai pour toi. Tu as été créé dans un but précis, celui d'abord de vivre une relation avec ton Père, celui qui t'a créé, puis d'aller vers ton prochain, pour que quand ton prochain puisse te voir, il voit la beauté de celui qui t'a créé, et alors le Père sera glorifié. Tout comme la fourmi a été créée par Jésus dans la volonté du Père, toi, tu as été créé par lui, parce que le Père le voulait, et cela bien avant la création du monde. On va dans Psaume 139, verset 16. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton grand livre, chacun de ces jours que tu me destines était tout inscrit avant que l'un d'eux ne vienne apparaître. Dieu a voulu nous dire dans sa parole que c'est lui qui nous a créés et qui nous connaissait bien avant notre naissance, que notre vie était déjà inscrite. Alors même si tu es né sous X, peut-être que tu étais non désiré ou abandonné, la parole de Dieu passe avant tout raisonnement, logique humaine. Dieu a voulu nous dire que notre naissance, ta naissance a été voulue et qu'elle n'est pas le fruit du hasard. Tu as été créé pour des œuvres bonnes, pour des œuvres préparées d'avance par Dieu, celui d'aimer ton prochain, car Dieu est amour. Et donc, comme on peut imaginer, en voyant l'œuvre de la création, combien le Père nous aime quand il nous a créés, il nous a créés avec passion. Pourquoi ? Parce que quand on regarde, on voit qu'il y a 15 000 espèces de fourmis. On peut voir là toute la diversité, toute la passion que le Père nous a créée. Et ça de façon unique. La dernière fois, je parlais de l'ensemble des animaux et je disais qu'il y avait 2 millions d'espèces d'animaux connues. Et Dieu est amour. Et donc chaque espèce a été créée dans le but d'être l'expression de son amour. C'est comme si Dieu te disait 2 millions de fois « Je t'aime » et ça chaque jour à travers sa création, à travers l'ensemble des animaux. On peut mieux comprendre le verset qui dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Et toi, tu as été créé de façon unique pour être l'expression de son amour, pour être un « Je t'aime » à ceux que Dieu a mis dans ta vie. Voilà, donc là on était sur la fourmi. Et donc là on va faire juste on va dézoomer et on va regarder une diapo hein, et on va regarder à l'ensemble des animaux, hein, des photos de diapo. Et on va faire un peu comme David. David lui était dans son pâturage avec ses moutons et il observait le monde. Hein, et c'est comme ça qu'il a écrit ses psaumes. Il a découvert tout l'amour de Dieu. Et donc on va regarder ces diapos et voir. On va regarder à la manière de David et j'ai noté quelques versets hein, et donc, qui pourraient en fonction des photos qui vont passer nous montrer. Donc les versets, je vais les citer. Et donc, il est le Père qui te protège comme la prunelle de ses yeux. Il est le Père qui pourvoit à tous nos besoins, qui prend soin de nous. Il est le Père qui te promet de te guider, de t'enseigner le chemin à suivre. Il est le Père qui te protège sous ses ailes. Il est le Père qui te promet que quand tu traverseras l'eau, il sera avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Il est celui qui te lave et te purifie de tous les péchés. Et enfin, le psaume 150, verset 6, « Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. » C'est-à-dire 2 millions d'expressions d'amour. Alors, rentre dans ton identité de créature du Père et deviens l'expression d'amour du Père pour ton prochain. La deuxième question hein, qu'on avait posée au début, c'était « La fourmi a-t-elle de la valeur aux yeux du Père ?» Oui. La réponse est oui. Parce que le Père aime son Fils et tout a été créé par lui et pour lui. Nous sommes ses enfants également, et donc la création a été créée aussi pour nous. Ça, c'est bon, un autre point que j'ai noté. Colossiens 1, verset 16. Car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, puissance spirituelle, domination, autorité, pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Colossiens 1, verset 16. Et pour mieux comprendre, on va voir un exemple. Ici, on voit un père qui a offert un de ses jouets avec son enfant. Et la question, c'est est-ce que si on retire l'enfant de l'image, est-ce que le jouet a de la valeur aux yeux du père? Est-ce que le père, peut-être pour acheter ce jouet, a peut-être mis de l'argent de côté, a dû faire des heures supplémentaires parce que le jouet peut-être coûtait cher. Il a dû feuilleter pendant des heures les catalogues, etc., etc. Est-ce que on imagine un adulte prendre autant de temps pour un jouet aussi banal? Non. En fait, la valeur du jouet prend effet à cause de qui? Ou grâce à qui? Grâce à l'enfant. Et c'est comme ça que fonctionne la valeur. Notre valeur par rapport au Père. Nous avons de la valeur, nous prenons de la valeur aux yeux du Père grâce à Jésus. Et c'est pour ça que nous avons été créés par Jésus. Parce que le Père nous voit à travers son Fils Jésus. Une deuxième illustration, c'est nous voyons ici des parents. Lorsque des parents apprennent qu'ils vont avoir un enfant, ils vont alors se mettre dans une logique de préparation, d'arrivée de l'enfant. Ils vont préparer la chambre de l'enfant, ils vont acheter du matériel, etc. Ils vont planifier l'arrivée. Et le père et le fils ont œuvré dans cette même façon quand ils nous ont créés. On le voit à travers les étapes de la création qu'on avait vu la dernière fois. Et le père et le fils ont œuvré ensemble et ils ont préparé chaque étape dans ce but d'attendre l'arrivée de l'homme. Donc ici, l'image, c'est pour montrer combien nous avons aussi de la valeur aux yeux de l'homme. Et c'est pour ça que le psaume 139, verset 14, David a pu dire « Je veux te louer d'avoir fait de moi une créature extraordinaire et si admirable. Tu fais des merveilles, mon être entier le reconnaît bien. » Plus une créature est merveilleuse, et plus elle a de la valeur. Et alors, quelle est la valeur? Quelle est notre valeur aux yeux du Père? La Bible répond en disant « Un très grand prix. » Et voilà pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix. Car tu as de la valeur. Si tu ne valais rien, Jésus n'aurait même pas fait le déplacement. Mais c'est parce que tu as de la valeur que Jésus est venu te racheter. Et le problème, c'est que dans ce monde, il est difficile de croire à notre vraie valeur, parce que l'ennemi est là. Parce que le monde va souvent nous rabaisser. Le diable ne nous aime pas. Et donc, il va mettre des standards dans ce monde qui seront toujours beaucoup trop élevés pour nous. Il faut avoir les muscles de Thibaut Inchep. On ne sera pas aussi fort que Arnold Schwarzenegger. On ne sera peut-être pas aussi beau que Leonardo DiCaprio. On ne sera peut-être pas aussi intelligent que Albert Einstein. Bref, il y aura toujours des standards beaucoup trop pour nous. Il ne faut pas être aussi, il ne faut pas être... Voilà. Dans notre vie, nous recevons aussi des mauvaises paroles qui vont venir casser notre image, notre identité. Et tout ça joue sur notre façon de nous regarder, notre vraie valeur. C'est pour ça qu'il faut regarder, non pas aux yeux du monde ou à ce que l'ennemi nous dit dans nos pensées, mais à ce que la parole de Dieu dit de notre vie. Et la parole de Dieu dit que nous sommes une créature merveilleuse. Pour terminer sur ce point, sur la notion de valeur que nous avons en Jésus, il y a une petite illustration. C'était suite à un rêve que j'avais fait qui peut illustrer. Dans ce rêve, j'étais dans une vente aux enchères dans une salle. Et j'avais avec moi ce petit caillou. Ce petit caillou est insignifiant, c'est un petit caillou de couleur violette. Et dans cette salle, et j'étais venu pour le mettre en vente avec une certaine somme. Hein. Et dans cette salle, il n'y avait pas grand monde. Il y avait un homme qui était là, bien costumé, qui présentait bien. Et toutes les œuvres qui passaient devant moi, lui, il les achetait quoi? Hop, tableau un tel, il prenait et achetait. En fait, il n'y avait pas vraiment de vente aux enchères puisque c'était le seul acheteur. Et donc cet homme était impressionnant. Et je me disais, tiens, lui, il s'y connaît quoi. Et quand j'ai vu les œuvres et les prix qu'ils étaient mis, c'était quoi? 900, 1000, 1100. Moi, j'étais arrivé avec mon petit cahier où je me trouvais ridicule. Alors, j'ai décidé de rabaisser le prix, quoi. Je dis, oh non. Je me suis comparé, quoi, à toutes ces œuvres. Et là, il y a la voix de Dieu qui m'interpelle et qui me dit, non. Cette pierre est très précieuse, elle a une grande valeur, mais son prix de départ à 10 000 euros. Alors, je vais voir le gars qui est en face, hein, qui met qui gère la vente aux enchères, hein, et voilà, je ramène mon caillou et je dis voilà, prix de départ 10 000 euros. Il annonce ça, et l'homme qui est en costume se lève et puis vient observer ce caillou. Et puis il tient à préciser gentiment que voilà. Voilà, il rappelle qu'il s'y connaît en œuvre et patati et qu'il est très riche. Et donc voilà, il s'y connaît et ce caillou ne vaut pas 10 000 euros, il vaut que quelques euros et ça sera le seul prix qu'il mettra. Et là, je me retrouve encore une fois ridicule et je suis impressionné par lui. Alors, je suis prêt à accepter son offre. Et c'est à ce moment-là que la voix de Dieu m'interpelle une deuxième fois et il me dit non, n'écoute pas cet homme, cette pierre est très précieuse. Elle a un très grand prix. Son prix de départ est de 10 000 euros. Je décide d'écouter la voix de Dieu et je bloque le prix, du coup, à 10 000 euros. Et alors, l'homme en costume se met en furie. Il dit que jamais cette pierre ne vaut ce prix et que jamais il ne mettrait ce grand prix. Et du coup, il s'en va. En me réveillant, je pose deux questions à Dieu. Je dis, c'était qui cet homme en costume? Et la réponse, c'est le diable. Alors, la deuxième question, c'est. C'était quoi ce caillou? La réponse c'était ce caillou, c'était toi. C'était ta valeur, ton identité. Et voilà le verset qui m'est venu à l'esprit. Ésaïe 43, verset 4. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et des nations contre ta vie. En conclusion, on a vu trois choses dans ce message. La première, c'est que le Père et le Fils sont à l'origine de toute la création. Deuxièmement, j'ai été créé dans un but, celui de montrer la beauté du Père. Et troisièmement, j'ai de la valeur aux yeux du Père grâce à Jésus, son Fils.